Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, c'est un peu grandeur et décadence de l'époque à travers le regard que portent sur cette époque deux écrivains très contemporains qui connaissent tout des désillusions de la jeunesse mais qui, avec tendresse et sens du combat, ont décidé de ne pas déposer les armes. Flore Vasseur, d'abord, qui, avec ce qu'il reste de nos rêves, livre un récit mélancolique et engagé sur un héros suicidé de notre ère digitale. Il s'appelait Aaron Swartz et il croyait que l'Internet pouvait rendre le monde meilleur. Avec elle, Julien Blangras, voyageur, baroudeur, rangé des voitures après la naissance de son premier enfant. L'occasion, quand on est en train de la garer, la voiture, de regarder l'époque et les générations qui nous ont précédés, celles de ses grands-parents notamment, avec beaucoup d'acuité. Bonjour Flore Vasseur.
Bonjour.
Vous publiez aux éditions des Équateurs donc ce très beau récit qui laisse songeur sur ce que nous avons raté. Ça s'appelle « Ce qu'il reste de nos rêves » et c'est un récit, une exo-fiction, diraient certains, sur donc Aaron Swartz, et non Schwartz, hein, c'est Swartz, un Mozart ou un Rimbaud du code. Le code, c'est l'art de programmer, car on ne parle pas ici du code de la route. Code qu'il pratiquait dès l'âge de 8 ans, avant de rêver de libérer pour le monde entier l'accès à la connaissance qui faisait pour lui, descendant d'immigrants juifs venus avec leurs livres d'Europe centrale, l'honneur de l'humanité est peut-être la condition de son progrès. Il a inventé Wikipédia avant Wikipédia, c'est bien ça,
hein? Oui, c'est juste.
Voilà, mais ça s'appelait, il avait donné un autre nom.
Info.net.
Voilà, il était trop, finalement, il a inventé trop tôt.
C'était un prodige, probablement un sage dans un tout petit corps d'enfant, avec des fulgurances sur ce que devait être notre époque et ce qu'était le progrès. Et à quoi devait servir sa vie. Donc, à 3 ans, il s'est mis à apprendre à lire tout seul. Vous l'avez dit, à 8 ans, il s'est mis à coder. Et très vite, il a quitté les ersatz de jeux vidéo pour vraiment essayer de coder utile. Et le code, c'est vrai, ça a l'air rédhibitoire comme ça, mais c'est vraiment ce qui sous-tend exactement tout ce qu'on utilise sur l'Internet aujourd'hui.
Il a inventé aussi le flux RSS. Vous nous rappelez ce que c'est, le flux RSS?
Le flux RSS, c'est ce qui permet à tout le monde d'écouter cette émission exactement maintenant en podcast, par exemple.
Très bien. D'accord. Voilà. Parfait. Vous nous rappelez donc qu'il a inventé aussi des systèmes de mobilisation aussi de l'opinion, donc des systèmes digitaux. Il a fait annuler d'ailleurs un certain nombre de lois, en tout cas une principale, avant de commettre l'irréparable aux yeux de la loi, ce qui le fit entrer dans la spirale d'un procès qu'il a décidé de ne pas jouer puisqu'il s'est pendu à l'âge de 26 ans. C'est son histoire que vous nous racontez dans ce récit très émouvant où il est presque autant question de lui que de vous et de votre génération, je pourrais dire notre génération. Un récit très poétique alors même qu'il s'agit de numérique. La poésie de la vie se cacherait-elle aussi, Flore Vasseur, au royaume des princes du digital?
Bon, en tout cas, j'ai été obsédée par une phrase qui explique que le code, un vrai bon code, c'est comme un poème. C'est-à-dire, c'est exactement juste. Et la poésie, c'est ça. C'est un espèce de code extraterrestre pour faire passer des idées que le langage n'arrive pas à faire entendre de façon normale. Et je pense qu'il y a vraiment énormément de parallèles entre l'écriture d'un code parfait et l'écriture d'un livre parfait.
Et aujourd'hui, la synthèse est faite grâce à vous, Flore Vasseur. Bonjour, Julien Blangras.
Bonjour.
Est-ce que vous codez? Pas du tout, du tout. Voilà. Mais vous codez, puisque vous écrivez des livres.
Ouais.
Alors, vous publiez chez Stock « Comme à la guerre », un récit qui se rapproche, en fait, de celui de Flore Vasseur par la façon qu'il a de lancer un regard à la fois tendre et lucide aussi, c'est-à-dire pas du tout naïf, sur l'époque que nous traversons et pourvu que nous la traversions. C'est aussi un portrait, c'est aussi un récit, mais c'est un portrait et un récit davantage sur vous. Je parlais d'exo-fiction tout à l'heure, ça se serait plus de l'auto-fiction, diraient certains. Un récit que vous produisez à un moment crucial, celui où vous devenez un père de famille, vous qui avez si souvent voyagé, qui continuez un petit peu, hein, 75 pays quand même, avant, je le disais, de garer le véhicule pour regarder ce petit garçon vivre. Votre livre a été écrit entre 2015 et 2018, pendant les 3 premières années de la vie de ce petit garçon. Il est né, comme vous l'écrivez, avec le mot « guerre ». guerre en fond sonore. La guerre, c'est celle, par exemple, qui se fait entendre avec les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, par lesquels s'ouvre ce livre, signé de quelqu'un, vous en l'occurrence, pour qui la guerre était un truc de vieux et qui découvre que les lendemains qu'on lui promettait chantant, eh bien, le font un peu déchanter. Comment continuer à vivre? Eh bien, en regardant vivre ce petit garçon et en se replongeant, lui qui a la sensation d'être cerné par l'apocalypse, dans le journal tenu par son grand-père maternel sous la mitraille en 1939-1940, et les récits d'engagement, c'est comme ça qu'on les appelle, tapés à la machine par l'autre grand-père, donc côté paternel, le maréchal des logis-chefs Blangras, qui lui offre, ces deux papis, une échelle pour évaluer la tragédie contemporaine et peut-être aussi évaluer son bonheur. Mais est-ce que, Julien Blangras, c'est pas une ruse de l'esprit tout ça? S'il faut en passer par les écrits des grands-pères pour prendre conscience que, non pas peut-être jusqu'ici tout va bien, mais jusqu'ici tout ne va pas si mal. C'est pas un peu une ruse? C'est déjà suspect ça.
Alors déjà, merci pour ce très bon résumé du livre, j'aurais pas su faire aussi bien. Est-ce que c'est une ruse de l'esprit? C'est une recherche en tout cas, parce que effectivement, je me pose plein de questions, comme tout le monde, sur le monde tel qu'il va et tel qu'on espère qu'il va continuer à aller.
Ou mieux, peut-être.
Les mieux, bien sûr.
C'est pas interdit, hein, Florent.
C'est clair.
Et donc dans ce monde complexe, confus, dans lequel on est quand même souvent désorienté, j'ai eu l'occasion d'aller fouiller dans la vie de mes grands-pères, pour y trouver pas forcément des réponses, mais au moins quelques pistes pour continuer à être soi, voir comment on peut avancer dans ce monde, et ce qu'on peut transmettre aussi aux générations suivantes.
Oui, mais c'est donc qu'il fallait déjà, s'il fallait en passer par le journal des grands-pères, c'est que quand même quelque chose allait pas si bien, ça n'allait pas de soi, disons, cette conscience que, voilà, il y a un enfant qui arrive, il est là, on est en couple, en famille... Il y a les aléas de la vie, mais bon, ça va quand même. Non, là, il a fallu quand même aller chercher dans les journaux pour se dire, finalement, ça va, quoi.
Le point de départ du livre, c'est quand même avant tout la collision entre les deux événements. Un, la naissance de mon fils, qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est la vie qui débarque à la maison. Et de façon à peu près concomitante, la vague d'attentats que la France a traversée, et Paris notamment, dans les quartiers où j'habite. Donc, la mort qui rôde... Et l'atmosphère délétère qu'on...
Les hommes en armes devant les crèches.
Voilà. Donc, comment on fait grandir un enfant dans ce monde-là, effectivement, où il y a des militaires qui patrouillent, où partout il y a des affiches vigipirates qui nous rappellent en permanence qu'on est dans un monde dangereux. Quel monde on prépare à nos enfants, comment on les prépare à vivre dans ce monde-là. Donc ça, c'est la première ligne, la première strate du livre. Et après, effectivement, je me sers de l'expérience de mes grands-pères pour essayer d'acquérir de...
Mais de comparer par aussi, peut-être.
Ouais. Ouais, c'est oui, ça, comme de comparer les époques. Tout à l'heure, avoir une échelle du tragique, et c'est assez utile parce que, évidemment, c'est absolument dramatique ce qui s'est passé en France, les attentats de 2015-2016. Ça n'a touché, malgré tout, qu'une fraction de la population. C'est quelques centaines de morts, évidemment, c'est toujours trop, chaque mort est terrible. Mais quand on la compare avec la génération de nos grands-parents, toutes les familles étaient impactées parce que tous les jeunes gens sont partis à la guerre, ou à peu près. Il y a eu 2 millions de prisonniers de guerre. Rendez compte l'échelle, c'est monstrueux.
Merci à tous les deux de participer à ce temps des écrivains. Je le disais, vos deux récits semblent étrangement, ou enfin, peut-être pas étrangement d'ailleurs, mais se faire écho par leur raison d'être, qui me semble être, mais vous allez peut-être me contredire, l'envie d'examiner l'époque que nous traversons et toutes les illusions qu'elle semble laisser au bord de la route. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est un petit peu ça le...
C'est exactement
ça.
C'est exactement ça. Je pense qu'on est de la même génération et on a grandi dans le même bain culturel, idéologique, avec les mêmes mythes qu'on nous a balancés, y compris la paix finalement.
Quelle année, Fleur Vasseur,
oh
de naissance?
73.
73, et vous, Julien?
76.
Voilà, bon, 75 pour moi.
Oh là là, vous voyez.
Donc vous disiez, voilà, oui, on est contemporain.
On est contemporain et vraiment, je crois qu'on en est tous aujourd'hui. C'est tellement étonnant ce qui se passe qu'on en est tous à questionner nos croyances, en fait. Et moi, c'est ce qui m'obsède. C'est est-ce que je pense vraiment ce que je pense parce que je le pense? Ou est-ce qu'on m'a plaqué des prêts à penser que je ne fais qu'exécuter en consommant ainsi, parlant ainsi, travaillant ainsi, etc. Quelle est ma part de liberté, en fait? Quelle est ma part d'esprit critique, d'esprit de liberté? Et donc, je trouve qu'on est fondamentalement en ce moment dans une période de déconstruction, de tout ce qu'on a plaqué sur nous, de toutes nos croyances.
Pensez à quoi, par exemple, concrètement,
d'un
ensemble de croyances.
On est dans un environnement, un système qui repose sur une, par exemple, une loi intégrée par tout le monde, qui est par exemple que le profit est plus important que la vie. Bon, c'est posé quelque part, on l'a tellement intégré qu'on n'y pense même plus, et tout ça nous pousse dans un système complètement délirant. D'où ça vient ça? Quand est-ce que ça a été posé? Pourquoi on n'a rien dit? À quoi ça servait? Qui avait intérêt à ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour remplacer cette croyance par autre chose? Et qu'est-ce que peut être la croyance d'après, en fait? Donc moi, je suis très intéressée par cette culture de société qui nous tombe dessus à la naissance, qu'on reproduit et qu'on transmet malgré nous. Des codes, en fait. Les codes.
Et on revient au code.
Voilà. Donc, qui a écrit
Double
ce code?
Code?
Mais oui, cette notion de code, c'est extraordinaire. Le code, c'est le langage, c'est le code entre nous.
C'est les lois aussi.
C'est les lois, c'est les relations humaines. C'est toutes ces choses qui sont écrites ou pas et qui font qu'on se comporte de telle ou telle manière. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le code de la société est profondément questionné. Et je trouve formidable que ça soit abordé par... Est-ce qu'il n'y a pas que la littérature qui peut l'aborder, en fait? Voilà.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que quand vous êtes politique, vous êtes dedans, c'est compliqué. Vous-même, vous êtes élu parce que vous avez suivi un certain nombre de règles, que vous avez souscrit à un certain nombre de codes. Et donc, vous êtes là parce que vous répondez à un certain nombre de validations que la société vous donne. Je pense que vraiment, la littérature est le dernier endroit où on peut être libre.
Partagez cette idée, Julien Blangras. Florvasseur, vous désignez, quand elle a dit voilà, ces codes qui nous tombent dessus, voilà, et que l'époque était... Enfin, qu'on était dans un moment peut-être où questionner ces choses-là. Sur le fait que la littérature est peut-être le meilleur des outils ou...
C'est le refuge de la complexité, parce que c'est le temps long. On a le temps, la place de développer des idées. Hélas, ça touche pas un volume de personnes très très grand de nos jours. Donc c'est pour ça que, par exemple, je crois que Flore décline son travail, notamment en documentaire, ce qui permet peut-être de toucher plus de monde. Donc la littérature, oui, pour aller au fond des choses.
Julien Blangras capitule déjà.
C'est pas une bataille.
Pourtant, vous portez un pull-over, je le dis pour les auditeurs, parce que justement, nous, c'est la voix, il n'y a pas l'image. C'est du documentaire sonore.
Oui, j'avoue, je porte un pull-over.
Le mot panache sur ce pull-over gris. Sur l'idée de liberté, non, c'est intéressant, vous disiez, c'est le refuge de la complexité, c'est vrai, par rapport notamment au digital, et je te like ou je te like pas, vous en parlez beaucoup, Florvasseur, et puis le code, 0 ou 1, en fait.
Pensée binaire.
Pensée binaire, totalement. Vous parliez de la littérature comme refuge de la complexité, qu'est-ce que vous voulez, est-ce que vous pourriez développer cette idée?
C'est ce que je viens de dire, tout simplement, on a des centaines de pages pour exprimer les nuances du réel, alors que le monde numérique est plutôt le refuge de la polarisation des idées. Je pense que Flore expliquera ça mieux que moi. Tout est fait sur les réseaux pour qu'on soit enfermé dans nos présupposés, pour qu'on soit enfermé dans nos névroses, ce qui conduit évidemment à toute l'agressivité et la colère qu'on peut percevoir aujourd'hui dans le monde un peu partout. Et je pense que les réseaux sociaux, le numérique, sont en partie responsable de ça. C'est le vecteur, en tout cas, qui permet de catalyser les colères pour le meilleur et quand même souvent pour le pire.
Et comment vous, Julien Blangras, vous caractériseriez cette époque? Florvasseur disait, c'est un moment, une époque. D'ailleurs, époque en grec, c'est l'arrêt, c'est la suspension. Donc le moment qui permet peut-être de regarder ce qu'on a sous les yeux pour déconstruire, disait Florvasseur. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse sur l'époque? C'est maintenant le moment de la déconstruction de ces codes qui ont été plaqués peut-être sur nos façons d'agir.
Moi, j'ai surtout l'impression qu'elle est de plus en plus inintelligible. Donc, c'est compliqué de les définir. C'est tout aussi compliqué de la déconstruire, justement parce qu'elle n'est pas aussi simple qu'on pouvait l'imaginer avant. Il y a tellement de flux d'informations que tout le monde est au final, je crois, un petit peu perdu. Pour répondre globalement sur l'époque, moi, j'ai l'impression que depuis ma naissance, depuis que je suis conscient, on vit dans une époque pré-apocalyptique. Les enjeux environnementaux, on a l'impression que tout se casse la gueule, etc. Dans ce livre, ce que j'essaye de faire, c'est au contraire montrer les choses qui peuvent aller bien essayer de voir le verre à moitié plein. Parce que si on prend un petit peu de recul, on se rend compte que l'humanité, finalement, ne s'est jamais aussi bien portée. Il ne s'agit pas d'être candide et de nier tous les problèmes qui existent.
Il y a certains Steven Pinker, par exemple, qui pensent que le monde va mieux. Il y a tout un tas de théoriciens de ce mieux...
Et oui, et ils ont
de
bonne
ce mieux vivre.
Ça marche bien. C'est vraiment tout un créneau très, très porteur. D'ailleurs, en librairie, c'est les derniers trucs, j'ai entendu dire, presque qui marchent. C'était ce truc. Non, ça va bien. Vous inquiétez pas, oui. Pinker,
mais qui se base sur des faits aussi, en disant voilà, il y a moins de morts du choléra, moins de morts. Voilà.
Oui, c'est sûr que statistiquement, on peut tout relativiser tout le temps. Mais vous et moi, au quotidien, est-ce qu'on relativise?
L'écrivain est celui qui cesse de relativiser. Je voulais vous poser cette question-là aussi. Comment vous avez commencé à y répondre, Flore Vasseur, mais comment vous jugez je ne vais pas parler de mission, mais peut-être, oui, disons-le, de mission de l'écrivain dans un monde du mot, dans un monde du verbe, qui est de plus en plus éclipsé par l'image. D'ailleurs, je disais, Julien Blangras capitule, il parlait déjà de vos documentaires, Flore Vasseur. Mais dans un monde qui est de plus en plus éclipsé par l'image ou de la pensée en 140 signes, la pensée des réseaux sociaux extrêmement dominant aujourd'hui, quelle peut être la fonction, justement, de l'écrivain? Il y a une notion qui revient beaucoup chez vous, c'est la notion de lanceur d'alerte, et notamment sur la démocratie aussi.
Moi, je pense que l'écrivain, c'est celui qui passe sous la surface du réel, en fait, qui considère le chaos et qui essaye d'en faire un peu de sens. Donc, il y a effectivement l'histoire du temps long, et c'est un privilège absolu. C'est une forme de résistance, en fait.
Vous parlez du temps de l'écriture ou du temps de la lecture?
Les deux. Écrire, c'est résister. Lire, c'est résister. Moi, quand je vois quelqu'un avec un livre dans le métro, j'ai presque envie de l'embrasser sur la bouche, quoi.
Ah, mais moi, je le fais.
Ah, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai je m'amuse souvent à compter le nombre de gens qui lisent des livres dans le métro. Ils sont rares, mais il y en a encore et on a envie de les remercier.
Il y en a encore, voire il y en a plus qu'avant. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a des petits gestes du quotidien qui font qu'on peut souscrire ou ne pas souscrire à ce fameux, code que la société plaque sur nous. Mais vraiment, pour moi, l'écrivain, c'est celui qui va servir ça. Ce désir de comprendre, ce désir de douter, qui pour moi est une hygiène personnelle. Mais
si on rentre dedans, justement, on parlait du code numérique 0 ou 1, ça serait quoi le code de la littérature? Quels sont justement les éléments sur lesquels on joue pour programmer ces livres, si on prend la même image? Si on prend le roman, par exemple, ou la non-fiction?
C'est le personnage, justement. C'est l'extrême singularité des personnages et toute leur texture. Les ombres, les parts d'ombre, le crépuscule, les espoirs, les illusions, les chutes, comment on se redresse. Ça, parce qu'on revient à quelque chose d'universel. On voit un humain en train de se... aux prises avec le réel, en fait. Et ce transfert, presque, projeté sur une personne qui, a priori, n'est pas réelle, mais qui, grâce à la littérature, devient presque réelle. Il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance, puisque la personne dont je parle est quelqu'un qui a existé. Donc, c'est pas toujours le cas. Mais...
Vous n'auriez pas pu l'inventer? S'il avait fallu l'inventer, ça aurait été moins fort? Parce que vous avez, on en parlera tout à l'heure, on développera, mais vous avez choisi de ne pas utiliser la fiction, alors qu'on vous connaît comme romancière.
Oui, c'était hyper difficile, parce que finalement, la fiction, c'est beaucoup plus simple. Vous inventez votre Playmobil, vous lui mettez la couleur de cheveux que vous voulez, les vêtements que vous voulez, les défauts, les qualités, les aspirations que vous voulez, et vous en faites exactement ce que vous voulez. C'est presque de la toute-puissance, la fiction. Là, j'étais vraiment très contrainte par le réel, et en même temps, complètement portée par un personnage qui était... plus gros que tout ce que j'aurais pu imaginer, en fait.
Enfin, on peut dire aussi que le réel est parfois une béquille aussi pour l'écrivain, parce que ça peut être aussi une facilité, finalement, de se laisser guider et justement de n'avoir pas ce gouffre devant nous où on peut aussi amener le personnage à se fourvoyer. Julien Blangravo aussi, je parlais d'autofiction, même si le terme, évidemment, est discutable, mais vous avez choisi de ne pas utiliser la fiction.
Alors moi, j'ai aucune imagination. J'exagère un petit peu, mais c'est vrai que la plupart de mes livres sont basés sur le réel, et c'est soit des récits, soit des romans à forte teneur autobiographique. Déjà parce que le réel est passionnant à décrypter. Et voilà, donc moi, je ne ressens pas particulièrement le besoin d'avoir recours à la fiction.
Fiction ne veut pas dire qu'on se détache du réel. Quand on lit Guerre et Paix, quand on lit Le Rouge et le Noir, on est en plein dans le réel, mais on est dans la fiction.
Oui, bien sûr, mais moi, j'ai choisi la voie du récit ou de l'autofiction, si vous voulez. Voilà, ça me semble être efficace aussi.
De quels écrivains, justement, si on considère la littérature comme une façon de reformuler le monde, de déprogrammer, de décoder les codes et d'en inventer d'autres, de quels écrivains vous sentez proches, Flore Vasseur et Julien Blangras?
Alors, proche, je ne sais pas, mais je suis très admirative du travail d'un Américain qui s'appelle Dave Eggers.
Bien sûr, l'auteur de Cercle.
Du Cercle, notamment. Mais alors, d'abord, c'est une personne, en fait. C'est une personne juste sublime qui... au-delà d'écrire, s'investit politiquement dans sa communauté. Voilà, il est aussi éditeur, il travaille pour que les enfants aiment lire et comprennent que la littérature, l'écriture est un moyen d'être libre. Donc je trouve que, tout d'abord, c'est une très belle personne. Deuxièmement, il écrit des livres incroyables de fiction ou de non-fiction, je crois qu'on appelle ça la narrative non-fiction, qui vous éclaire sur le réel et des angles morts de nos sociétés qui sont absolument fabuleux, avec une tendresse à chaque fois. En fait, je crois que plus en plus, ce qui m'épate en fait chez les écrivains, c'est la tendresse qu'ils arrivent à faire véhiculer dans leurs écrits. C'est très facile d'écrire des descentes et des satires. Je l'ai beaucoup fait.
Oui, vous pratiquez le tir au pigeon.
Voilà. Et en fait, c'est jouissif. Et j'ai envie de dire, c'est assez simple. Ce qui tient le temps, je pense, c'est plus l'amour qu'on met aussi, y compris pour des ratés, y compris pour des... Enfin, voilà, on va essayer de mettre de l'humanité là où il n'y en a plus, du regard là où il n'y a aucune considération, de l'attention là où on oublie, en fait. Et je trouve que c'est ça qui est magique chez la littérature, en fait. Il n'y a pas d'enjeu d'audimat.
Vous la personnifiez chez la littérature, voilà.
Ouais, bah voilà, c'est une grande dame.
Et vous, Julien Blangras, les écrivains qui vous épaulent dans cette tentative de redonner du sens au chaos qu'exprime la littérature?
Là, comme ça, je pense à Emmanuel Carrère, qui a eu une influence certaine dans la forme, dans la façon d'agencer sa propre vie avec un récit plus grand que lui-même, avec un talent fou. Quand on lit Carrère, on a l'impression d'être plus intelligent, puis il y a une grande fluidité. Moi, je m'attache aussi beaucoup à la fluidité du style. Donc voilà, Carrère. Pour l'humour, il y a Philippe Jaénada, qui est quelqu'un qui est plein d'humanité, qui sait conduire des récits incroyables avec des digressions à mourir de rire.
Qui, lui, se base de plus en plus, d'ailleurs, sur des personnages réels.
Voilà, maintenant, il a une veine dans le fait divers. Donc voilà, je pense à ces deux-là. Mais pour revenir aussi sur ce que disait Flore, c'est vrai que souvent, la littérature va chercher à creuser le mal, tout ce qui est complexe et tortueux dans l'âme humaine. Moi, j'essaye aussi, particulièrement dans ce livre, de remettre un petit peu de lumière dans ce que je raconte. C'est aussi un processus de survie. Ce livre, la question de base, c'est comment aller bien dans ce monde qui ne va pas bien ou qui a l'air de pas aller bien. Donc, c'est souvent oublié par les écrivains parce que c'est plus facile d'aller se vautrer dans la boue de l'âme des hommes, tout ça. Et mine de rien, essayer de mettre de la tendresse, de la bienveillance, du positif, sans être complètement candide ou neuneux, ce n'est pas si facile.
Très bien. C'est émission placée sous le signe de la tendresse. On poursuit avec vous, Julien Blangras, et vous, Flore Vasseur. On va entrer plus profondément dans vos livres. On commence avec vous, Flore Vasseur, et ce qu'il reste de nos rêves. D'abord, on écoute votre choix musical. Vous avez choisi Analyze de Thom Yorke, donc la voix de Radiohead.
Absolument.
Le temps des écrivains. Christophe Onodibio.
Self-fulfilling prophecy of endless possibility, in rolling rings across the screen, in algebra, in fences that you cannot climb, in sentences that do not. Time to analyze.
Analyze de Thom Yorke, la voix de Radiohead. C'est le choix de Fleur Vasseur qui publie Et ce qu'il reste de nos rêves aux éditions des Équateurs. Pourquoi ce choix musical, Fleur Vasseur? Est-ce qu'il y a de la tendresse? On en parlait tout à l'heure.
Bah, écoutez, d'abord, merci d'avoir passé cet extrait-là et avec cet enregistrement-là qui est, à mon avis, acoustique ou quasiment. Voilà, je pense qu'on est, pour moi, au plus pur de ce que doit être un artiste, en fait. Parce que voilà quelqu'un qui est face à son micro tout seul et son piano en l'occurrence et qui est en train, sur 3 minutes 20, de vous communiquer tout son désarroi, toute sa lecture du monde et tout cet appel à essayer de rentrer dans cet univers-là et dans cette compréhension du monde-là. Moi, Thom Yorke fait partie des chanteurs et des artistes que je suis beaucoup, avec lesquels j'ai beaucoup écrit. Ce livre, c'est vraiment effectivement l'artiste de la mélancolie et du contemporain, j'ai envie de dire, avec une lecture de ce qu'est l'Amérique, de ce qui est devenu justement.
De la machine aussi, d'ailleurs,
bien sûr,
ça s'appelle
voilà.
Analyze.
Ça s'appelle Analyze, voilà. et de ce décryptage.
OK Computer,
bien
je
sûr,
sais, voilà,
amnésiaque.
Voilà, exactement.
Vous voyez,
ouais.
On est vraiment dans quelqu'un qui nous balance ses fulgurances, en fait. Alors, voilà, la poésie mise en note ou juste lue ou dite ou professée, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est des petites choses qu'on se balance pour dire, tu sais quoi, j'ai compris un truc et je vais juste essayer de te dire quelque chose qui va pouvoir t'aider. En fait, pour moi, c'est le genre de choses qui aident à vivre. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette.
Vous aimez Thom Yorke, Julien Blangras?
Moi, je suis évidemment ultra fan de Radiohead. J'ai écrit des chapitres entiers sur ce groupe-là, qui est un de mes groupes préférés, vraiment.
Alors, vous publiez, Fleur Vasseur, ce tombeau, j'ai envie de l'appeler ce tombeau, pour un jeune homme qui fut vraiment un dieu pour une génération, qui est peut-être encore plus, d'ailleurs, depuis sa mort. Votre livre s'intitule « Ce qu'il reste de nos rêves ». Il est publié aux éditions des Équateurs. C'est un récit. Un beau récit où vous retracez donc son destin. Qui est-il? Eh bien, c'était une sorte de Rimbaud de la programmation informatique, ou un Mozart, vous nous direz. Héros OS et héros AUT de l'Internet libre, qui s'est suicidé à 26 ans, lui qui codait depuis l'âge de 8 ans, qui avait appris à lire à l'âge de 3, et qui s'est suicidé quand il s'est vu menacé d'une peine de prison de 35 ans, qui pouvait advenir après son procès. Il a décidé de ne pas jouer ce danger du procès. Qu'avait-il fait, Aaron Swartz? Eh bien, il avait rendu public des millions d'articles qui appartenaient à une bibliothèque virtuelle payante, des documents qui étaient protégé par le droit d'auteur. C'est étonnant, Fleur Vasseur, qu'un écrivain comme vous célèbre ce genre de pratique, en fait, parce que le droit d'auteur, c'est aussi bien, et puis c'est un idéal, voilà, des lumières.
Oui,
aussi.
Absolument, mais j'ai l'impression que entre l'idéal et la réalité, il y a un énorme écart, et justement, le concept même de droit d'auteur aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il dit exactement l'inverse de ce qu'il est censé faire. L'idée, c'était de protéger les créateurs et de leur permettre de vivre de leur plume et de leurs idées. Et aujourd'hui, l'auteur, souvent dans la chaîne de valeur, alors des livres, mais j'ai envie de dire encore plus dans le documentaire, c'est vraiment le dindon de la farce, quoi. Tout repose sur son idée, sur sa création, sur sa capacité à mettre en mots quelque chose que d'autres n'ont pas encore vu. Et c'est celui qui est le moins bien rémunéré, le moins bien récompensé, etc., etc. Et donc le combat d'Aaron sur le droit d'auteur, il n'est pas dans l'idée d'annuler le droit d'auteur, qui est quelque chose encore de très très utile, mais de comprendre qu'en fait, comme tous les éléments de l'intérêt général aujourd'hui, de la nature à la création, ça a été préempté par des industries qui, en fait, sont venues mettre des systèmes de péage pour accéder à la création, pour accéder à la connaissance, pour accéder à l'esprit critique, aux idées, etc. Et qui, en fait, n'ont absolument rien à faire, hein, mais qui ont juste vu une manne économique. Donc, entre l'idéal de la protection des auteurs et la réalité économique de ce que ça veut dire aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'est un peu perdu en chemin, effectivement.
Alors, vous connaissez, je le rappelais tout à l'heure, Fleur Vasseur, plutôt comme... alors, déjà comme créature hybride, hein, c'est-à-dire qu'à la fois entrepreneuse, hein, vous avez été avec succès, d'ailleurs spécialiste en...
en intelligence économique aux États-Unis, à New York, et est passionné aussi par la littérature très ancrée dans le réel. Mais jusque-là, c'était des romans. Comment j'ai liquidé le siècle, En bande organisée, des romans qui s'en prenaient, je parlais de tir au pigeon tout à l'heure, au monde de la finance notamment. Certes, ces romans étaient fondés sur de solides enquêtes, comme d'ailleurs ce texte, hein, « Ce qu'il reste de nos rêves ». Et pourquoi là, vous avez abandonné la forme du roman pour ce livre ?
Je crois que j'ai plus le temps. En fait, je crois que j'ai plus le temps. Et puis j'étais sur un sujet trop gros. J'avais pas le temps d'attendre, d'avoir la distance nécessaire au sujet pour pouvoir faire d'Aaron et de cette histoire ce que je voulais. Donc moi, j'ai eu le sentiment de me mettre au service de quelqu'un, d'un fantôme probablement. Il y a une relation incroyable qui s'est faite à sa mort en fait. C'est un truc un peu fou. Mais voilà, je pense que sincèrement, si c'est pas là que j'en parlerai jamais dans une interview. Mais il y a quelque chose d'assez fou qui s'est passé et qui est de l'ordre de la transmission, du passage, voire de l'appel, à essayer d'expliquer ce destin-là comme illustratif de ce qui était en train de nous arriver collectivement en fait. Je dis souvent, Aaron est le message, mort, il est le message. Il avait un message et mort, il est le message. C'est vraiment cette idée-là et j'ai senti qu'il était de ma responsabilité de le faire. Après, ça a été hyper difficile parce que il représente tout ce que j'aime. Toutes ses illusions, c'était les miennes. Toute sa bataille, c'est devenu la mienne. Toutes ses amies, c'est devenu les miens. Et donc, je me suis méfiée de moi. Je connaissais trop ma capacité à détruire, en fait, par la plume.
À détruire, c'est-à-dire
à critiquer, à être caustique, à être sarcastique. Vous voyez, par exemple, quand on tape sur la finance ou le pouvoir politique, c'est facile. On les déteste tellement. Ils représentent tellement tout ce qui nous oppresse, etc.
Mais ça, le roman pouvait permettre aussi d'éviter cet écueil-là, du sarcastique.
J'ai pas trouvé le chemin.
Je dis ça parce qu'au fond, il y a des paradigmes extrêmement littéraires, même des... Enfin, moi, j'ai pensé à Kafka, à des univers romanesques, en fait, comme Kafka. En fait, c'est comme si ce Mozart se retrouvait chez Kafka.
En plus, il l'adore, Kafka, quand il a effectivement...
C'est un lecteur, Aaron Swartz.
Mais c'était aussi ça qui nous a liés ou qui nous lie. C'est un fou de livres. En fait, je crois qu'on parlait depuis le début de la conversation, finalement, le sujet, j'ai l'impression, c'est comment résister au réel. Et quels sont les agents de la consolation ? Eh bien, les livres font partie des agents de la consolation. Et pour Aaron, c'était vraiment ça. Très vite, son père lui dit « Les livres sont des trésors, ils répondent à toutes les questions de la vie. » Et ça, quand vous êtes écrivain, ou que vous avez la prétention de l'être, et vous tombez sur quelque chose comme ça, mais bien sûr que vous allez embarquer sa roue.
Tout à l'heure, j'allais vous poser une question que je ne vous ai pas posée. Vous parlez de consolation. J'allais vous demander si vous étiez en deuil, parce que c'est aussi un livre de deuil. Je parlais de tombeau, alors un tombeau littéraire, c'est-à-dire au grand un hommage de mots, une construction de mots, un code, un programme de mots. Mais la notion de deuil, on la ressent. Vous allez voir les parents, puisqu'il y a une enquête aussi, les parents d'Aaron Swartz. Mais j'ai l'impression que vous êtes, vous aussi, en deuil.
Certainement, mais je pense qu'on, si on est un peu objectif, je pense qu'on l'est tous. Franchement, quand on voit ce qui se passe autour de nous, enfin, je dirais pas que la période est vraiment à la fête et à l'illusion. Après, il y a différentes façons de vivre ce deuil. Et c'est vrai que ça démarre par une mort, la sienne. Et étonnamment, c'est parce que je me suis mis à suivre un fantôme que moi, j'ai découvert la vie. Ce qui est très étonnant, c'est que je vais voir ses parents et c'est quand même terrible. Littéralement, on ouvre son cercueil, on va sur sa tombe. C'est des moments qui sont forts et c'est vrai que j'ai l'énorme chance, moi, pour l'instant, d'avoir été relativement préservée du deuil. J'ai encore ma famille, j'ai pas eu d'enfants malades, j'ai pas encore eu cette expérience, si ce n'est violente, mais collective. J'ai vécu le 11 septembre à New York. Moi, c'est probablement ma plus grosse expérience du deuil. Mais c'est pas quelque chose où tout à coup, quelqu'un que j'aime disparaît pour toujours.
Et les livres permettent justement de surmonter ça. Vous parlez des livres comme des agents de consolation.
Oui.
À nouveau, comme des, presque des programmes aussi. À nouveau.
En fait, c'est même quelque chose qui s'est un peu tissé quand j'ai contacté les parents d'Aaron pour les rencontrer. C'est pas un geste facile. Et je leur ai dit, je pense que... je sais plus comment je leur ai expliqué, mais l'idée, c'était pas de ressusciter leur enfant. Je peux pas avoir cette prétention-là. Mais par contre, il y avait l'idée de pouvoir le peindre, en fait. le peindre, que la littérature permettait, on en parlait tout à l'heure, cette complexité, ces demi-teintes, cette part d'ombre, cette complexité.
Et c'est quelqu'un qui écrit, hein, d'ailleurs, parce qu'il a écrit ce fameux manifeste, alors qui n'est pas un manifeste surréaliste, quoique, en tout cas qui est tout à fait révolutionnaire, qui s'intitule « Ce manifeste de la guérilla pour le libre accès », qui est devenu un archi-best-seller
Absolument. Mais c'était surtout un écrivain frustré, en fait. Il a toujours rêvé d'être romancier. Il a démarré je ne sais pas combien de livres. Ici, on sait tous combien c'est difficile, combien on est tout seul et combien il faut être dans la foi et combien la société vous rattrape exactement chaque minute pour vous dire « Mais t'es complètement taré, arrête, va gagner ta vie » ou je sais pas, toutes ces phrases complètement débiles. Mais toujours est-il que Aaron avait vraiment... il aurait pu être tout à fait un écrivain et je pense que je pense même que la littérature aurait pu le sauver. Son grand drame, c'est de ne pas avoir eu cette énorme
béquille. Cet agent de consolation.
Voilà, on y est. Ouais. Quelle écriture, finalement. C'est très égoïste, un écrivain. On est en train de sauver notre peau quand on écrit.
Alors, vous citez son père hein, qui lui dit « Le code, lui disait-il, doit être parfait, presque exquis, comme un poème. » Au cours de vos recherches et de votre enquête, hein, puisque c'est au fond, même si ce n'est pas un roman, extrêmement romanesque, la vie de ce petit garçon quoi, qui a 8 ans, enfin, c'est déjà parler avec les machines, hein, les faire parler même. Est-ce que vous avez trouvé d'autres parallèles entre le personnage qu'il était et celui du poète auquel vous le comparez hein, d'ailleurs, parfois, un Rimbaud du Code. C'est pas seulement à cause de son jeune âge que vous l'appelez Rimbaud du Code. Des analogies entre l'écriture, la littérature et le code.
Il y a cette histoire effectivement de code parfait qui fait le programme parfait et qui fait le livre ou le poème parfait. Il y a l'idée aussi de l'intention, en fait. Quelle est l'intention derrière le code? Quelle est l'intention quand on écrit? Quelle est l'animalité, en fait, qui vous guide et qui fait que votre projet va être contre ou pour l'humanité? Et puis, Aaron, très vite, s'est échappé du code informatique pour aller sur le code de la société, le code de la constitution, le code de la sociologie, le code de la politique. En fait, il a compris que tout était code et que notamment le code de la société était celui de la constitution était cassé. Et c'est là où il rentre sur les questions démocratiques, c'est là où il rentre sur les questions de liberté. Et donc, il y a cette démarche, en fait, là où il est parfaitement un écrivain ou un poète, c'est ce désir de comprendre, en fait, et de laisser quelque chose qui tient le temps.
Je voudrais qu'on vous entende, Flore Vasseur, lire un extrait de Ce qu'il reste de nos rêves.
Le 11 septembre a entaillé la trilogie publicitaire d'une grande nation libératrice des foules, d'une technologie émancipatrice des peuples et de nos progrès de supermarché. Depuis, intrigues et personnages de romans, ceux des autres et les miens, recyclent mes doutes. Je les invente ou les suis pour continuer de croire au réel. Accroché au parapet, Aaron a écrit chaque jour. Derrière lui, il a laissé des petits cailloux pour ne jamais se perdre. Ses idées me rassuraient, son combat me touchait. Quelqu'un, quelque part, pensait, travaillait pour nous, moutons de l'Internet. Un clic sur son blog et j'absorbais tout. Bons mots et trouvailles récupéraient un cerveau, comme un précipité d'intelligence. Il m'a fallu du temps pour établir le lien. L'accès à la connaissance est au cœur des luttes, la formulation même de nos pensées, la dernière des libertés. Politique, éducation, recherche, l'élite confisque nos outils. Aaron entendait les récupérer et les partager. Il était Albator, le capitaine des pirates. Un personnage irréel, mais vrai. Une petite voix limpide et sans concession dans le vacarme. Je ne l'ai jamais connu. Je comptais sur lui. Je l'ai dans la peau. Il me plante là, devant mon écran Facebook. Reste l'Amérique, l'Internet. Des illusions empilées en mille feuilles. Il avait leur visage, était leur enfant. Tout ce que j'ai aimé. Je compte l'écrire. C'est un projet d'outre-tombe. Pour battre le temps. Il n'y a que les trous noirs.
Merci Flore Vasseur. Ce qu'il reste de nos rêves, c'est aux Équateurs. Julien Blangras, quand Flore Vasseur parle de la littérature comme un agent de consolation, c'est une belle expression. Vous êtes d'accord? Enfin, c'est comme ça que vous la voyez, la littérature?
Notamment pour ce livre-là que j'ai commencé à écrire après le 13 novembre 2015, parce que ben, ça n'allait pas. Donc on essaye de mettre ses idées au clair et surtout ses émotions. Donc voilà. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, de parallèle dans nos trajectoires. Flore Vasseur disait qu'elle avait commencé par le tir au pigeon, et puis maintenant, elle était sur un truc un peu plus lumineux, hein, faire ce portrait d'une personne lumineuse. Moi, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que mes premiers bouquins, souvent, on a collé l'adjectif désabusé à mes livres, et maintenant, j'essaye d'être, particulièrement pour ce livre-là, dans une forme de réenchantement. Et une fois de plus, ça ne veut pas dire être naïve. Je crois qu'on peut essayer de se réenchanter en étant lucide. En fait, j'essaye de faire mentir l'adage. J'essaye de faire de la bonne littérature avec des bons sentiments.
Oui, c'est ça. Alors, justement, puisque je vous tiens, Julien Blangras, vous nous avez demandé de vous exaucer. Alors, je vais un peu garder le suspense. On le fera à la fin de cette émission. Voilà, il y a quelque chose que vous aviez envie d'entendre. Vous nous expliquerez pourquoi. Je voudrais qu'on vous entende lire donc un passage de Comme à la guerre. Alors, j'ai choisi, il faut que les auditrices et les auditeurs essaient de percevoir les différences. Vous les marquerez un peu. En fait, il y a plusieurs voix, plusieurs strates dans ce livre. Il y a vous, le narrateur. Il y a des cartes postales que vous écrivez à votre fils quand vous êtes en voyage. Et puis, il y a, on en parlera aussi, les journaux des grands-pères. Donc, on va essayer de percevoir ça en vous écoutant.
Le danger n'est pas partout. Il nous frôle ou passe au loin, nous épargne à une seconde ou un millimètre près, frappe un inconnu ou un proche dans votre rue ou à Montevideo, au moment où j'écris ces lignes, dans l'injustice du hasard. Le danger façonne la créativité des hommes qui ont inventé le karma, le mektoub, la destinée, autant de fictions bâties pour supporter l'indifférence de l'univers. Post-it de la faucheuse collé sur nos consciences, le danger nous rappelle notre condition périssable qui stimule notre ardeur à vivre. Je suis revenu à la maison avec mon fils sur les épaules et j'ai souri devant les mots qu'un plaisantin avait tagués sur un bac à fleurs. Dans un vibrant hommage de plein air à l'un des plus grands poètes de la variété française, on pouvait lire « N'attendons pas que la mort nous trouve du talent ». Chapitre suivant, qui est donc ce petit interlude carte postale que le narrateur envoie à son fils. « Mon petit, je t'écris du Cameroun où je suis en résidence, trop longtemps loin de toi, pour écrire et parler de littérature aux jeunes de ce beau pays fatigué. Ici, les écoles ne sont pas les mêmes que chez nous. Les enfants, si. Tu m'as demandé hier au téléphone si j'avais vu des popotames. Non, il n'y en a pas à Yaoundé, ni à Bafia, ni à Bangoulap. Un jour, nous irons ensemble voir les animaux dans la savane, s'il en reste. Gekonwu, papa. » Alors, Gekonwu, ça veut dire « je t'aime » en bamileke. Chapitre suivant. Je me souviens du jour où mon fils a découvert le meurtre. La fourmi se promenait dans les allées du parc, vaquant innocemment à ses activités. L'enfant a marché dessus, volontairement. Puis bouger la fourmi.
Merci Julien Blangras. C'est vrai que c'est cette particularité aussi. On entend là, elle est retranscrite, la voix de l'enfant avec, comment il dit aussi, pour fermer la porte, je sais plus quoi. Il y a cette.
Alors la première phrase qu'il a prononcée, c'est à pot et ouette, c'est-à-dire la porte est ouverte.
Voilà, c'est ça.
Phrase prononcée non pas par un être humain, par ses parents ou à l'école, mais par le digicode vocal de la porte de notre immeuble. Donc c'est une machine qui lui a enseigner ses premiers mots. Et là, je sens bien que ça parle.
Flore Vasseur est traumatisée. Elle vient de baisser la tête. Voilà, sa chevelure a caché son visage un instant.
Ça vous... c'est vrai que j'ai cette obsession aussi de me souvenir quel était le premier mot intelligible que mes enfants ont dit. Et c'est vrai que c'est pas je t'aime, c'est pas... Alors, ça peut être, vous, le digicode, mais moi, c'était attends. C'est terrible. C'est ce qu'ils entendent le plus, en fait.
Dans le même registre, il y a un passage dans le livre où mon fils discute avec l'assistant vocal de l'iPhone, avec Siri. Et mon fils parle avec lui en disant « Mais t'es qui, toi ?» Okay. Je crois que Siri lui répond de manière assez hypocrite quelque chose comme « Je suis à votre service ».
Exactement.
Oh là là.
Vous publiez donc ce « Comme à la guerre » chez Stock. Alors, j'en ai parlé un petit peu au début de cette émission. C'est un récit qui pourrait se rapprocher de celui de Flore Vasseur par sa façon de lancer un regard au fond tendre, hein, on en parlait de la tendresse, qui est vraiment un mot important, pas du tout naïf ni candide, au contraire, un mot de résistance, un regard tendre sur l'époque que nous vivons, tendre et lucide. C'est aussi un portrait, c'est aussi un récit que vous livrez à un moment, que vous écrivez à un moment crucial, celui où vous devenez un père de famille, vous qui aviez tant voyagé, qui n'avez pas abandonné complètement, on en parlera peut-être. C'est une sorte de chronique de la paternité au temps des attentats qui ont endeuillé la France en 2015 et 2016. Jusqu'en 2018, pendant les trois premières années de la vie de ce petit garçon, vous écrivez donc ce livre avec le mot « guerre » en fond sonore. Comment continuer à vivre? C'est un peu la question que vous posez, Julien Blangras. Eh bien, en regardant ce petit garçon vivre et en notant scrupuleusement ce qu'il fait, ce que vous lui dites aussi, vos conversations. Et ce qui est très intéressant, très perturbant aussi, c'est que
Il y a plusieurs strates, hein, on en a eu quelques exemples là, mais il y a une strate supplémentaire, c'est que vous avez retrouvé en fait un journal tenu par votre grand-père maternel, qu'il tenait donc en 1939 et 1940, donc en pleine guerre mondiale. Et puis de l'autre côté, parallèlement, les récits d'engagement, donc les récits de combat, tapés à la machine de l'autre grand-père, donc deux grands-pères qui ont, comme beaucoup de grands-pères, connu la guerre à ce moment-là. Et vous expliquez que ces journaux, donc qui s'imbriquent hein, dans votre structure narrative, servent à votre narrateur à lui donner une échelle de tragique. Moi, j'ai pensé évidemment à Peggy, hein, que vous citez, hein, le dernier aventurier du monde moderne, c'est le père de famille. En quoi était-il nécessaire d'aller justement dans cette structure hein, que vous avez choisi de développer, d'aller chercher justement comme une note tendre aussi, mais une note tragique, ces journaux qui se greffent comme ça à vos mots à vous, des journaux avec des mots qui ne sont pas les vôtres, qui sont ceux de vos grands-parents, une sorte de généalogie textuelle presque à l'œuvre.
En deux mots, c'est une idée très simple, c'est savoir d'où on vient pour savoir où on va. Après, pour rentrer plus dans le détail, un jour, je devais avoir 24 ans, mon grand-père m'a tendu un tas de papiers en me disant « tu pourras jeter un œil là-dessus, c'est sûrement pas intéressant ». C'est la dernière fois que je voyais mon grand-père et je me suis rendu compte en lisant ce petit tas de papier qu'il m'avait transmis un trésor qui était son journal intime qu'il avait commencé le 1er septembre 1939 et qui court jusqu'à juin, juillet 40 au moment de sa captivité. Donc il y a toute l'histoire de la guerre qui est racontée de manière très factuelle et précise. C'était à la fois un document historique, une archive familiale qui s'est avérée bouleversante quand je me suis rendu compte qu'au moment où il écrivait ces lignes-là, il avait 24 ans, c'est-à-dire l'âge que j'avais où je les ai lues. Donc là, ça fait un parallèle qui, ça nous fait faire un saut de maturité quand même hein, quand on lit ça à cet âge-là. Donc j'avais cette histoire et j'avais envie de la retranscrire un jour dans un livre. Et c'était l'occasion de le faire.
Vous liriez un petit bout justement de la lettre. Il s'appelle Marcel. Hein, c'est mieux que ce soit vous qui lisiez plutôt que moi la lettre du 13 juin. Un petit morceau qu'on entende aussi cette voix venue d'il y a bien longtemps.
Oui, parce que outre les carnets, j'ai retrouvé des lettres qu'il avait écrites à sa famille. 13 juin. Bien chers parents, je suis sorti enfin sain et sauf de l'enfer de la Somme, et je puis vous assurer sur mon sort après un long silence qui a dû vous inquiéter. Nous venons de vivre une semaine terrible, et nous avons perdu une quantité de camarades. La situation est presque désespérée, et à moins d'un miracle, il n'est guère possible que nous nous en sortions. Que va-t-on faire de nous maintenant? Le vendredi après-midi et surtout le samedi ont été épouvantables, et depuis nous avons fait plus de 100 km en 3 jours, en nous bagarrant à chaque instant pour réussir à gagner la mer et à nous embarquer à travers des péripéties formidables. Enfin, me voilà sorti de là sans une égratignure et en bonne santé. C'est le principal. Excusez cette carte toute décousue, je ne sais pas encore bien ce que je raconte. Recevez mes bien chers parents les plus tendres baisers de votre fils qui vous chérit. Marcel.
Merci Julien Blangras. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette forme du journal? Je disais, on vous connaît comme auteur de récits de voyage, mais il y avait eu ce journal de grossesse, hein, In Utero, ou journal de grossesse mais vu par l'homme, où vous racontiez jour après jour comment se passait justement cette naissance à venir. Là, il y a même des journaux dans le journal sur cette forme narrative que vous avez choisie. Qu'est-ce qu'elle vous apporte?
Tout simplement, c'est l'expérience intime qui peut essayer de révéler l'universel. Si on se tient uniquement à l'intime, ça peut être uniquement narcissique et à ce moment-là, c'est pas intéressant. Moi, j'essaie de me servir de cette expérience-là, qui est celle que je connais le mieux, évidemment, parce que c'est la mienne, pour tirer des fils de réflexion vers l'universel.
Vous décrivez tout ce que vous faites avec l'enfant, son pyjama, ses premiers mots, sa brosse à dents, son doudou, vos conversations aussi presque d'adulte. Est-ce qu'il y a, on parlait de transmission tout à l'heure, au-delà du propos intime, une recherche d'universel, comme s'il y avait une forme de sagesse à trouver là-dedans pour les lecteurs qui ne sont peut-être pas pères ou qui l'ont été. Je pense à ça parce que dans votre livre Fleur Vasseur, vous décrivez un couple qui a un pull-over. Je parlais de votre pull-over tout à l'heure, Julien Blangras, où il y a marqué « Il faut écouter les enfants ».«
Listen to the kids ».
Voilà, « Listen to the kids ». Finalement, cette parole enfantine, est-ce que l'auteur Julien Blangras s'est dit qu'il y avait une leçon, une sagesse à
Alors,
trouver.
Écouter les enfants, pourquoi pas? Dans le cas de mon fils, là, dans le récit, quand il est 2-3 ans, bon, il dit quand même beaucoup de bêtises. Mais non, je crois que la principale leçon, vous parliez de sagesse, ce que nous enseignent les enfants, Ils nous apprennent à relativiser et à nous montrer les choses importantes. Quand on n'est pas parent, on est un être égoïste parce qu'on vit principalement pour soi-même. Quand on est parent, on n'est plus la personne la plus importante de sa propre existence. Et ce que j'ai découvert, c'est que je pensais que mon rôle sur la planète était de protéger ma progéniture et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était aussi elle qui me protégeait en m'inculquant cette forme de sagesse.
Alors, il y a beaucoup d'autodérision aussi. C'est peut-être ce qui vous différencie, d'ailleurs, je voudrais qu'on termine par là. Beaucoup d'autodérision sur le fait d'être un écrivain aujourd'hui, c'est-à-dire à l'heure de ces réseaux sociaux. D'ailleurs, Zuckerberg est présent dans votre livre, comme dans le vôtre, Fleur Vasseur, et comme dans bien d'autres, il est partout, dans les livres des romanciers de l'époque aussi. J'avais fini par me lasser des salons du livre, mais j'acceptais toujours volontiers les invitations des établissements scolaires où de valeureux professeurs de français tentaient de raccommoder le lien entre les élèves et la lecture. La tournée des collèges et lycées, des quartiers chics de Paris à l'outre-mer, en passant par les provinces et les banlieues, m'offrait un large panorama sur la jeunesse française. Les adolescents étaient surpris de voir débarquer un romancier âgé de moins de 100 ans. Ils n'étaient pas familiarisés avec le concept d'écrivain vivant. Il y en a une autre pour la route. À la fin de mes interventions, les élèves voulaient savoir ce que je pensais de Charlie Hebdo. On ne tue pas des gens pour des dessins, demandaient combien je gagnais, moins qu'un trader, et s'ils pouvaient faire des selfies avec moi. Oui. Après la sonnerie, souvent, l'un ou l'une d'entre eux venait me voir discrètement pour m'avouer qu'il ou elle écrivait un livre dans son coin. Et dans chaque classe, deux ou trois filles, toujours des filles, passaient plus de temps avec les livres que sur les réseaux sociaux. Nous devons remercier Harry Potter pour cela. Tout n'était pas perdu. Beaucoup d'autorisation, je le disais. Mais finalement, là, vous rejoignez sur l'idée que c'est pas perdu, parce que Fleur Vasseur, au fond, vous avez dit, Aaron Swartz, il s'est peut-être pendu, mais ce qu'il a écrit reste de plus en plus et de plus en plus lu, et ça se termine quand même sur une note, la rébellion et les livres sont là.
Mais je pense qu'en fait, l'idée, c'est que on est au service des idées, en fait. Et que parfois elle s'incarne dans un personnage comme Aaron Swartz, parfois elle s'incarne dans quelqu'un comme Edward Snowden, parfois elle s'incarne dans quelqu'un de Dave Eggers. Finalement, nous, on est des véhicules, on est des convoyeurs. N'importe quel individu. Ouais. Mais celui qui écrit ou celui qui chante, celui qui crée, qui utilise les mots, il décode le message, j'ai envie de dire. En fait, on décode le message, voilà. On y est. Et donc, le message est là. La question est qui l'incarne et comment on peut aider la personne qui l'incarne aujourd'hui. Et Aaron est mort, mais son esprit est hyper, hyper, hyper vivant. En fait, moi, je le vois partout.
Julien Blangras, vous doutez justement quand on vous entend parler comme ça de l'écrivain, on a l'impression que parler d'un résistant, quoi. Voilà.
Ou quelqu'un qui raccommode. Ou d'une espèce en voie de disparition.
Voilà. Ou quelqu'un qui raccommode. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déchiré, quoi. Vous avez vraiment, vous doutez de votre mission d'écrivain?
Alors déjà, je pense pas vraiment avoir une mission. Je constate que les gens lisent de moins en moins.
Si, vous dites, vous allez d'outre-mer à tout, vous êtes un peu en pèlerinage.
Oui, alors c'est des moments où je peux me sentir éventuellement utile parce qu'on incite les jeunes à lire et les jeunes, c'est l'avenir. Et effectivement, plus on lit des textes longs.
Un missionnaire, alors peut-être.
Comme vous y allez. Ouais. Oui, non, mais effectivement, ça peut être éventuellement utile quand on est invité dans les écoles de donner le goût de la lecture. Voilà.
La différence entre vous deux, je trouve, tient à la morale de vos deux histoires. Alors chez vous, Julien Blangras, la page 279, je lis « Quand on ne peut pas ordonner le chaos, il faut apprendre à vivre avec ». Et je trouve chez vous, Fleur Vasseur, à la fin, plutôt cette phrase « Ces lycéens vont nous dégager, nous et nos compromis, notre passion pour l'argent ». Non pas vivre avec ce chaos, mais poser les jalons d'une autre vie possible. L'adaptation, c'est pas une résignation, Julien Blangras?
Alors justement, j'essaie de faire en sorte que non. Fleur et moi, je crois qu'on a à peu près les mêmes constats. Elle est dans une logique de combat, il y a quelque chose de fougueux, de militant. Moi, c'est pas mon tempérament, je suis plus dans une logique d'adaptation, qui n'est pas une logique de résignation. Il y a une résistance individuelle, on va dire, c'est quasiment quelque chose de proche de l'art martial, du judo, c'est-à-dire retourner la force du monde contre lui pour essayer, malgré tout, d'être heureux dans ce chaos permanent.
Et vous, Fleur Vasseur, mieux que l'adaptation, la révolution?
La résistance, en fait. Vous savez, on a parlé des grands-pères et de la guerre tout à l'heure. Et moi, j'ai hésité à mettre mes propres grands-parents, en fait, dans cette histoire. Parce qu'en fait, je crois que la question d'aujourd'hui, résistance, collaboration, elle est là, en fait. Et... C'est à moi décrire que vous hochez de la tête.
Je hoche, oui.
Mais je pense qu'en fait, on en est tous là et c'est des choix très, très personnels. Et donc, c'est pas nécessairement la révolution, mais qu'est-ce qui fait qu'on est des êtres debout, en fait. Et qu'on est capable, parce que j'ai aussi des enfants, de leur dire que dans ce monde-là, il y a des postures, en fait. C'est pas des positions, c'est des postures. C'est un rapport à la vie. C'est un rapport au temps. Et donc, c'est pas révolution pour révolution. Là, quand vous parlez des lycéens, je parle en l'occurrence des enfants de Parkland, des lycéens de Parkland qui sont ces résistants à une des tueries. Vous savez qu'il y en avait quasiment tous les jours aux États-Unis aujourd'hui, mais qui avait fait 17 morts il y a un an quasiment, et qui ont lancé ce mouvement incroyable qui s'appelle March for Our Lives, avec une espèce de droiture, de dignité et de compréhension du jeu, y compris du jeu médiatique et de la corruption qui nous gouverne, qui est absolument hallucinante. Et pour moi, je suis tout le temps en train de chercher, je vous le disais tout à l'heure, où s'incarne cet esprit de résistance, et je le vois beaucoup. Alors, c'est des signaux faibles. Alors, March for Our Lives, c'est pas nécessairement si faible, mais peut-être beaucoup de ceux qui nous écoutent n'en ont pas entendu parler. Mais chaque jour, oui, il y a cette extinction de masse à l'œuvre, et il y a aussi ce désir de vivre, voilà. En fait, cette rage de vivre qui s'incarne, et je trouve qu'aujourd'hui tout est sur la table, en fait. Et le plus sombre de ce qui est du dessous des cartes est le plus beau de l'âme humaine, en fait.
Donc on pourrait raffiner votre définition de livre comme agent de consolation en redéfinissant peut-être autrement.
Oui, alors en fait, tout à l'heure j'y pensais, en fait, la littérature, elle nous lit. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'empire du digital, où soi-disant vous avez des connexions Facebook, machin, etc. Mais en fait, on est très, très isolés, et c'est des trucs complètement faux. Ce qui est génial avec les livres, et oui, c'est désuet, oui, c'est ridicule par rapport aux forces en présence et ce qu'on a à affronter. Mais c'est magnifique. C'est la beauté du geste, en fait. Et ça, c'est pas une machine qui va le faire. C'est pas un robot qui va le faire. C'est nous.
Ni un digicode, Julien Blandin.
Oui, vous avez écrit un livre sur un mort, et c'est un livre plein de vitalité. Donc il y a aussi l'idée qu'on s'accroche à l'idée que nos enfants vont sauver le monde, parce que vous parlez aussi d'Aaron comme un enfant.
Voilà, listen to the kids. Voilà, batailler pour ne jamais devenir un adulte triste. C'est ce qu'écrit Flore Vasseur, c'est ce que vous faites aussi, Julien Blangras. Je vous avais promis une promesse, on va l'écouter en générique. Vous vouliez écouter Champs-Élysées de Joe Dassin, écouter sur France Culture. Je pense qu'il est déjà beaucoup passé, mais pourquoi ce désir de Joe Dassin?
C'est une petite marotte personnelle. Mon fils est fan de cette chanson aussi. Et plus sérieusement, mon livre est aussi un portrait du Paris post-attentat. Donc j'étais heureux de mettre une chanson joyeuse et légère sur Paris pour conclure.
Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci. Et on écoute Joe Dassin, Champs-Élysées. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation. Pierre Monteil à la technique. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter. Ça me fait drôle de dire ça devant Flore Vasseur. Podcaster, réécouter à l'infini. Sur franceculture.fr, 7h avec Flore Vasseur et Julien Blangras. Et maintenant, c'est Joe Dassin.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Oh, aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus
ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corde, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour.
Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.